Igqirha lindlela yanguqungu.
Bonjour à tous. Je suis dans les faubourgs de Johannesburg, qu'on appelle ici Joburg, en Afrique du Sud, un lieu historique. Nous sommes à Kroonmyne. Nous sommes sur le tournage de The Legend of Black Snake, la légende du serpent noir, un film qui raconte d'étranges aventures lors des années Pompidou, lors des années Focard, où je joue une infâme ordure qui vient conseiller le président africain Kroonmyne. Mine, c'est un endroit un peu légendaire ici. C'est un endroit où il y avait une mine, il n'y a plus d'or. Il y a encore quelques maisons qui sont là. On tourne au milieu de ces maisons un peu abandonnées. Et puis, les gens qui n'ont plus de travail, c'est étonnant ce mélange entre ces gens de cinéma et puis la vraie vie avec son histoire. Il y a encore un peu d'or ici, à Coltonville, le seul endroit où il y a encore des creuseurs d'or, des chercheurs d'or, dans les faubourgs de Johannesburg. La voix que vous entendez à côté de moi, c'est l'homme qui m'emmène tous les matins, qui est une légende de Soweto. Il s'appelle Pumelelo Roger Sibeko. C'est un homme qui a vécu toutes les aventures de ce township, de ce ghetto de Soweto, dans lequel ont commencé les gens à se révolter. C'était en 1976. Hi, Pumelelo, how are you?
How are you? Good and you?
Yeah, I like when you see Miriam Makeba.
Oh, a beautiful song, eh?
Il chante du Miriam Makeba, qui est une grande, grande chanteuse sud-africaine. When you were in the 76, you were in Soweto. Il était en 76 à Soweto.
Yeah, during the uprising, I was in Soweto fighting for Africans.
Il se battait déjà, il était enfant, c'était les premiers des gamins, il a fait de la tôle là-bas. What happened in Soweto now? Qu'est-ce qu'il arrive dans ce légendaire faubourg de Soweto, d'où est partie la lutte du combat des Noirs africains du Sud?
That year, 1976, the students were tired of Africans, everything was Africans. So they decided to go on march against Africans.
Voilà, c'est le début du combat contre les Afrikaners. On va laisser Thierry Paret égrener ce journal qui nous vient de France. On est avec vous. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette radio qui parle de partout pour partout. À tout de suite.
Je ne vais pas vous le faire en Kosa, hein, parce que je crois qu'il parlait en ça. Voilà. Six semaines après le début de son mandat, marqué par plusieurs polémiques, Donald Trump a précisé son programme devant le Congrès américain cette nuit. Il a notamment réaffirmé sa volonté de supprimer l'Obamacare. Il a dressé un bilan catastrophique de l'administration précédente, rappelant que 43 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. Il a promis de ramener des millions d'emplois aux États-Unis en appliquant de façon stricte les lois sur l'immigration. Il a promis aussi de détruire l'État islamique. Il a aussi déclaré que le pays allait bientôt commencer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. On ne pouvait pas les manquer. Des dizaines d'élus du Parti démocrate ont revêtu une tenue blanche à l'occasion de ce discours de Donald Trump au Congrès, comme l'avait annoncé Nancy Pelosi, chef des représentants démocrates, hein, quelques heures avant ce discours, cette prestation. Les élus ont choisi le blanc pour soutenir les droits des femmes que le président ne respecte pas. Fin de citation. Manuel Valls exprime, lui, son inquiétude face à la campagne de Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre a réuni ses proches hier soir. Un mois après sa défaite à la primaire, il met en garde contre le FN d'abord et il s'interroge sur la stratégie du candidat socialiste. Hein. Benoît Hamon à nouveau sous la pression de l'aile droite du PS, donc, depuis leur aliment de l'écologiste Yannick Jadot. Plusieurs personnalités socialistes ne se cachent plus pour critiquer leur candidat. Ainsi, le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, proche de Manuel Valls, menace de ne pas le parrainer en raison d'une orientation jugée trop câline envers la gauche radicale. Substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. C'est la définition des perturbateurs endocriniens, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. D'autres définitions existent, mais celle-ci est partagée par le plus grand nombre. Pour la troisième fois, la Commission européenne n'est pas parvenue hier, faute de majorité, à soumettre au vote un nouveau projet de réglementation de ces produits chimiques dangereux omniprésents dans l'environnement. Résultat, le projet de réglementation en vigueur va le rester et beaucoup le considèrent bien trop indulgent. L'enquête sur la famille disparue à Orvault progresse. La police, qui a diffusé une fiche de recherche au niveau national, soupçonne désormais Sébastien Troadec d'avoir, je cite, mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. Le Puy du Fou veut ouvrir en Chine et en Espagne. Le parc d'attractions, hein, qui fête ses 40 ans cette année, compte ouvrir 3 sites à l'étranger à l'horizon 2027, un en Espagne et 2 en Chine. Angers, Fréjus Saint-Raphaël et Bordeaux, ce sont les 3 premiers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. Angers est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Bastia. Fréjus Saint-Raphaël à domicile a battu Auxerre 2-0. Enfin, Bordeaux à domicile s'est imposé 2-1 face à Lorient. Suite des matchs ce soir, Niort va recevoir le PSG, Marseille va recevoir Monaco, l'US Quevilly va recevoir Guingamp et Avranches va recevoir Strasbourg. Et demain, Bergerac recevra Lille.
Enfin, ça m'a plu. Ça, je ne vous cache pas que d'ici, c'est bien. Il y a oui, de très, très... Hein,
pour le moment, il n'y a pas tellement de lien entre nous et vous, là, je trouve, non?
Au niveau sonore?
Oui. Moi, j'ai envie de dire Assi Bonanga pour me faire engueuler, je ne sais pas, non?
Oui, ça, c'est bien. C'est tout ce que vous savez de la culture musicale.
Voilà.
Hein, c'est très bien.
Bon, merci. Bien.
The only thing they know about Zulu music in France is Assi Bonanga by Johnny
Bonanga,
Clegg.
Assi
Bonanga. Terrible, non?
Ouais, terrible.
Je parle à mon ami.
Johnny Clegg a fait beaucoup de choses pour l'Afrique du Sud. Hein?
Zulu. Better Zulu song.
Sorry?
But a better Zulu song.
Il a une chanson Zulu meilleure, ah, Mbumelelo.
I'm gonna sing them Shosholoza. Do you know Shosholoza? Shosholoza, kule zondaba stimela sipume zimba. When uya balika, kule zondaba stimela. That's the best song.
Voilà, là c'est quand même autre chose.
Je plaque tout, ma femme, je prends un billet, j'arrive. J'arrive.
Ok les gars, qui a autour de la table aujourd'hui?
Bonsoir, je suis comédien de théâtre. Arnaud, bonsoir. Arnaud.
Alors le théâtre, on...
bonjour.
Oui,
bonsoir.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Difficile.
Oui, c'est difficile de communiquer avec vous.
Mais il y a aussi, dites vos noms.
Ah, il y a personne.
Je sais
personne,
pas s'il
si
faut
personne,
dire
ça. Il y a tous les amis autour de la table, Edouard.
Non, mais Edouard, vous êtes seul en fait. Vous êtes seul à l'autre bout de la terre.
Il y a Marie Missé, il y a Tito, il y a Thomas Bongartner.
Mais non, je suis pas là.
Il y a moi-même.
Edmund Kelif non plus n'est pas là.
Et il y a ces fameux écrans pubs qui ont fait notre célébrité tout autour du monde.
Ah bah oui.
Voilà.
Je vous propose d'en écouter un petit.
Juste avant le club des connoisseurs.
Voilà, France est pour le monde.
Allô? On a été perdu. Oui, on est.
Edouard voyage. Vous êtes sûr qu'il est parti pour le travail? Oh le pauvre. Edouard voyage. Voyage, tonton Edouard.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, plus près de toi.
Oh, à chaque fois que vous enverrez une chanson de chez vous en studio, il y aura une contre-programmation, une chanson ici à Johannesburg.
D'accord.
Alors ça, c'est quoi, Lerato? What are we hearing? What is this song?
It's a Zulu song that won the year award, like the senior award.
C'est une chanson Zulu. Voilà, vous, donc ne commencez pas avec votre programmation, parce que j'en ai sous la pédale de la chanson Zulu. Tout le plateau est prêt à en chanter. Lerato est très inquiète, elle est en train de vérifier sur son Deezer si elle a bien chanté. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Paris, en France, partout, à Brest? Qu'est-ce qui peut nous conseiller? Ah, le grand plateau des connoisseurs, je l'entends qui arrive. Ils sont là, ils sont venus des tréfonds de leur lit, ils sont venus du bout de leur salle de bain, ils sont venus de l'intérieur de leur brosse à dents, ils sont entre deux aspirines et trois envies d'aller se coucher. Ce sont les chroniqueurs du matin.
Bonjour.
grand enthousiasme.
Ben, grand enthousiasme.
Bonsoir.
Commençons par les dames, Marie Missé.
Déjà.
Bonjour. Moi, j'ai pas de casque, donc en fait, je ne sais pas ce que dit Edouard depuis tout à l'heure.
C'est remarquable, j'ai de très bons échos.
Oui.
Marie, vous n'avez pas de casque, vous n'entendez pas.
Ça y est, je vous entends.
Qu'est-ce que vous avez retenu ce matin qui peut nous concerner autour du monde?
Bah, c'est pas joyeux. J'ai retenu Geert Wilders.
Autre chose.
Aux Pays-Bas. Non, vous voulez pas Geert Wilders aux Pays-Bas?
Geert Wilders, moi, il me fascine physiquement, il ressemble
à
Michou.
Ah oui, il y a quand même quelque chose avec ses coupes de cheveux et ces gens qui se réclament de Donald Trump. Parce que cette coupe de cheveux de Geert Wilders, c'est peut-être aussi folle que celle de Donald Trump. On dirait qu'il y a un pétard qui a tout dressé tout droit. Bon, d'accord, je ne vous parlerai pas de ça. Du coup, je vais vous parler des...
Non, mais c'est très inquiétant, l'idée que plus des gens ressemblent à des clowns, plus ce sont des monstres et des fous. C'est-à-dire que le prochain à se présenter, ça va être Bozo ou Ronnie McDonald.
Mais c'est déjà arrivé.
C'est qu'ils arrivent, ils sont très rassurants, ils ont une moumoute sur la tête, ils ont un nœud papillon qui clignote. Et une petite fleur qui envoie de l'eau, et en fait, ça leur permet de se comporter comme des ordures, vu qu'ils nous font rire. C'est dans mon livre. Hein.
Vous savez qu'au Brésil, il y a un clown qui s'est présenté plusieurs fois aux élections.
Oui,
et il a gagné.
Catcheur aussi au Mexique. Et en Amérique, il y a un catcheur, Ventura, qui est élu. Hein.
Voilà, on a fait le tour.
Allez.
Et sinon. Sinon, il y a aussi une super nouvelle dans les autoroutes. Il va bientôt y avoir des caissons à sieste sur les autoroutes de Vinci. Des trucs d'un mètre sur un où on pourra dormir 20 minutes ou toute la nuit. Voilà. J'aimerais
bien
qu'on
réagisse autour.
C'est incroyable.
Il faut faire ça à l'entreprise aussi. Ça serait bien.
Ça partout.
Mais voilà. Alors, Atmen, oui. J'ai fait une remarque un peu beau du genre. Alors, je pourrais plus dormir en conduisant. Allez-y.
Allez. Oh, mais je pourrais plus dormir en conduisant. Merde. C'est voilà, ça que tu voulais entendre.
C'est ça que je voulais entendre.
Moi, j'ai une nouvelle.
Allez, une petite nouvelle de.
Oui. Ardon. Ouais.
En fait, Vercingétorix s'est rendu. Il s'est rendu et voilà, bon, ben, c'est fini pour la Gaule. C'est les Romains qui prennent la place.
Non, mais ça, c'était déjà,
formidable. A... Ouais, tu lis le petit attendez. Gaulois, toi.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas. Vous annoncez ça comme si c'était nul. Rien.
Mais non, c'est, pas, c'est énorme.
Bah, c'est quand même beau. C'est quand même
ça a
un
des
changement. Quoi.
Ouais, ça a des incidences quand même. Hein
bah, oui,
et puis vous savez que Ponce Pilate a refusé de relâcher Jésus.
C'est pas vrai.
Il paraît qu'il s'est lavé les mains.
Il a relâché Barabbas, qui est pourtant un voleur et un assassin. Alors que Jésus, qui n'a rien fait, il a refusé. On en reparlera dans.
C'est pas des fake news.
D'autres choses.
Oui, on a.
Ouais, moi j'en ai une. Il y a un mot du Sud-Ouest qui va rentrer dans le Larousse et dans le petit dictionnaire, le petit Robert. C'est Ouanchoubeb. Alors Ouanchoubeb rentre avec plusieurs variétés. Il y a Ouanchou Largueil, il y a Ouanchoubébuscule. On peut le mettre comme on veut. Mais Ouanchoubeb sera maintenant.
Ça c'est du vert.
Ça veut dire quoi,
c'est
quoi?
Ça veut dire quoi?
Mais c'est une exclamation, comme tu peux dire Ouanqui.
Bravo.
À quelle lettre on peut le chercher? À quelle lettre on le cherche?
Ça sera la lettre O. Ou
Anchoubeb.
On peut dire Anchoubeb, Anchoulargueil, on peut dire ce qu'on veut, mettre la finale qu'on veut. Mais ça,
langue
c'est
française, bravo.
Expression du Sud-Ouest. Et donc ça,
dans
ça
le
fait plaisir.
Scrabble, dans le... Et quand on joue au Scrabble, c'est un Scrabble.
Fois 90, là. Anchoubeb, tu vas prendre des lettres, hein, parce que tu peux rajouter Anchoulargueil, tu te rends compte, t'as un Y et tout.
Moi, je vais appeler mon chien Anchoubeb.
Ouais.
Thomas, vous n'auriez pas une info qui fasse plus travailler la partie haute du corps?
Qui fasse plus travailler. Oui, oui. Bah, il y a une interview de Mike Mills, qui est réalisateur, qui sort un film aujourd'hui qui s'appelle Femmes du XXe siècle, 20th Century Women. Et qui, alors, il va à l'encontre, dans une interview dans Libération, à l'encontre de l'idée du parallèle qu'on fait traditionnellement entre notre époque et celle des années 30. Lui, il dit que le parallèle se fait entre notre époque et l'année 1979. Donc, c'est l'année où se passe son film. C'est un film qui sort avec Annette Bening, entre autres. Et il dit l'Amérique a toujours des problèmes aujourd'hui relationnés avec le Moyen-Orient, avec le pétrole et son environnement. Et si on écoute le discours de Jimmy Carter, donc en 79, sur la crise de confiance, on se rend compte que la fin des années 70 souffrait d'un déficit de sens similaire à celui que nous traversons actuellement en Occident. Donc il dit, voilà, 79, c'est l'année où le temps présent a commencé. Voilà, il y a quelques temps, on avait Jean-Marie Durand qui était passé par ici pour dire que c'était 77. Voilà, il y a un débat, 77-79, comme année initiale, comme année féconde. Voilà. Et puis il y a un papier dans La Croix de Yves Durand qui nous rappelle que l'Internet ne se souvient pas. Il a de la mémoire, il a du stock. Internet a de quoi se stocker de la mémoire, mais ne se souvient pas. C'est nous qui nous souvenons. Voilà, ça c'est quand l'Internet se souvient plus, c'est Yves Durand dans La Croix.
Alors Carter, c'était plus joyeux quand même.
Oui, mais il y a eu Reagan qui est arrivé. Reagan est arrivé.
Il plantait des cacahuètes. Il
habitait Peyton Place.
C'est démocrate. Il est heureux. Donc Internet, oui, Arnaud.
Il paraîtrait, mais c'est pas sûr. Hein, ouais. Mais il paraîtrait que tous les êtres humains qui sont sur Terre depuis des milliers d'années, c'est parce que les gens, en fait, ils font l'amour. Et en fait,
ça reste à prouver. Quand même.
Très grande info.
Je vous assure que tous les
je
gens.
Je vois pas le rapport.
C'est
Arnaud,
ambitieux comme explication.
Moi, j'ai envie de dire one to bed.
Tout de suite une petite chanson zoulou pour réagir.
Inyembezi uyazosula othulumthwalo kwandibeke ithemba lami kuwe ndithuthuzele.
Faire l'amour, écouter une chanson en zoulou, c'est une façon de bien commencer la journée. À tout de suite, chers auditeurs.
Skip and Die, groupe sud-africain avec l'Indigo, donc en duo, groupe de La Réunion. C'était Maloya Music juste à l'instant. Quand est-ce que... Quoi ? Hey, qu'est-ce que vous dites ? Édouard Baird est au fond de sa loge, quelque part en Afrique du Sud.
Il a un look magnifique. Hein.
Je suis là.
Vous avez un look magnifique.
Je suis là. Non, parce qu'ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé la barbe.
Qui ?
Je me suis fait une tête parce que ça se passe dans les années 70.
Mais quoi ?
Mais le film, je vous ai raconté au début à 7h.
On n'écoute pas le film.
Je tourne dans un film de Thomas Gijol et Carole Rocher qui se passe dans les années 70 où je fais un type qui est envoyé par Jacques Focard comme conseiller d'un président à l'époque où beaucoup de présidents africains avec des conseillers français. Grosse moustache, énorme cravate, le mec qui en croque de tous les côtés, voilà. Un doigt dans les diamants, un doigt dans l'or, une grosse montre et une envie de faire une carrière à l'UDR en arrivant en France. Qui est l'ancêtre du RPR, qui est l'ancêtre du RPF, qui est l'ancêtre des Républicains, à suivre, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Vous avez travaillé votre rôle, hein.
ensuite Pénélope Fillon, ensuite machin, enfin, tout ça, tout est, vous voyez, tout a commencé très tôt. Lorsque le général de Gaulle la communauté africaine, oui. Tous les pays ont accepté, sauf Ekoutouré, bien sûr, en Guinée. Mais le pays que je représente n'est pas un pays comme la Guinée, n'est pas du tout un pays comme le pays de Ekoutouré. C'est un pays qui a fait allégeance à De Gaulle et ensuite, bien sûr, alors ça n'est pas le Gabon d'Omar Bongo, ça n'est pas, bien sûr, le Zaïre de Mobutu, c'est un pays imaginaire, bien sûr, et je vais reprendre une voie normale.
Pour Est-ce qu'Olivier Guichard est dans les parages ?
Olivier Guichard n'a jamais mouillé dans des affaires africaines. Il a tout de suite, après la libération, il s'est présenté à la Baule. Il a été aussi ministre du Général. Je ne vous laisserai pas salir la réputation d'un baron du gaullisme.
Et Bob Denard, il était là aussi ou pas ?
Bob Denard, c'est complètement une autre histoire. Mais ouais, voilà mon ami. Il y a mon ami congolais qui est là. Je vous présente Timpa Lolo Mampouya. Comment ça va, cher ami ?
Ouais, ça va bien, ça va bien.
Qui joue avec moi dans le fil et qui a des chansons congolaises aussi. Est-ce qu'on a le temps pour une toute petite chanson congolaise ou après ?
Oui, oui.
Alors, on a le temps, on fait comme on veut.
De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, allons-y. Allons-y.
Dalien, il est mort déjà. Bon, je peux chanter pour lui.
Aboya kikoyo katoli oyo pesa kinga. Lelo na moni mpasi Maria. Kobeta ngai na bambanda ngai kopanzite. Na wela se bulingu ya ngai na deli. Mote mae kobeta mpona mona ye. Lelo okuta ye epaya tete. Deli na ngonga ya minuit ye okoluka nini ye koleki na nga. Osi obebisi famiye deli ya. Deli okaboli nga solo na leki na nga. Natuna tete ya kongala pe ya lobi. Mibali bako mi pasi na Kinshasa.
Tima Lolo Mampouya.
Bravo, bravo. Super voix, super voix.
Édouard, oui, ici le ministère de la planification de l'émission. Il est temps d'écouter un peu de pub, si vous êtes d'accord.
Même battu pour Mobutu. On en parlera, mais envoyez la pub à Paris, puisque vous aimez ça.
Plus près de toi, 7h, 9h.
C'est où déjà plus près de toi ? Tu savais, non ?
Bon, c'est un peu partout apparemment, à Johannesburg par exemple.
C'est partout, on est dans le monde entier, on est en train de maroufler les estambilles, on garouffe les forages, on bijoute dans la golède, c'est partout, il y a des marins, il y a des langages de marins, il y a des langages d'aventuriers ici. Ici, le marché de l'or est tenu par des gitans du Liban, par des Chinois de Madagascar. Je peux vous dire qu'ici, ça sent pas l'amertume, ça sent demain. Envoyez-moi Marseille au téléphone un peu.
Bouchta ?
Oui, ma belle.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Bouchta, comment ça va, mon champion ?
C'est qui ?
C'est Edouard, c'est Edouard.
Ah, c'est Edouard, je crois que c'était Gmail ou Hotmail, là.
Hotmail, moi, c'est Hotmail. Gmail, c'est moi. Hotmail, Gmail, Arwell. Mais là, il y a Edouard au téléphone qui peut vous prendre.
Allez, pas comment de mon poussin.
Bouchta, tu es tellement raciste que tu retiens jamais les prénoms d'origine algérienne. Ah,
ouais, c'était Hotmail, voilà.
Hotmail, tu n'y arrives pas. Comment ça va à Marseille, Bouchta, dans ton quartier?
Ça va, mon poussin, j'attendais ton coup de fil, je te jure, tu es parti là-bas au Brésil, tu ne m'as même pas apporté un cadeau.
Non, mais là, je suis reparti en Afrique du Sud.
Ouais, mais moi, je voulais un cadeau spécial, je voulais un string de pare-balles.
Un string par balle parce que des gens te tirent dans le cul. Je comprends pas du tout. Pardon.
Ah, ben tu sais pas, vu les temps qui courent avec Macron qui est parti en Algérie, maintenant il s'appelle Chad Macrouloud.
Bon, il y a eu des jolies histoires dans ton immeuble, dans ta rue, c'est passé quoi ?
Ben, la belle petite histoire, mon chéri, c'est moi.
Oui, mais c'est Écoute, pas l'histoire de l'année, ça. Après, oui.
Allô ?
Oui, on t'écoute.
Alors, je te disais, mon poussin, mon livre, il est sorti de la maternité. Tu sais que j'ai écrit un livre.
Non, raconte.
Ah, ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je voulais devenir un homme » chez l'Harmattan. Et il est sorti à 3 jours de la maternité, tu sais, l'usine, là où ils fabriquent les livres. Et là, j'attends qu'ils vont me l'envoyer par colis. Ils m'en envoient une dizaine. Et je vais t'en apporter un cadeau à toi et à Bernard.
Bon, ben bah alors tu viendras en
patron.
Oui, il faut toujours offrir les livres au patron, moi. C'est bien d'être l'ami des gens riches et importants, je crois que c'est. Il y a une association, l'association des petits frères des riches. Mais dis-moi, tu vas venir en parler en studio ?
Oui, le studio, même dans un T3 ou même dans une cabane, là où tu veux, mon cousin.
Bon. Merci, Bouchta, pour ces informations du jour. Sinon, ce matin, tout va bien ?
Eh ben ça va, mon poussin, il fait beau, tout va bien. Ma chatte, hier, j'ai mis au vétérinaire, ils l'ont vacciné contre le sida. Allô?
Oui, bah,
c'est voilà, pas ils l'ont vacciné, t'es contente, elle tremble un petit peu, puis chaque fois qu'ils l'ont piqué les fesses, elle fait... Et après, je l'ai ramené, elle est tranquille. Tu vois, les chats, ils aiment la chance, ils sont vaccinés, nous pas encore. Ils nous font encore un an pour qu'on est tous vaccinés, Inch'Allah, tous les humains de la planète.
Inch'Allah.
Bon, ben, mon chéri, je crois... On a fait le tour.
Non, mais on a... non, sur Marseille, ça va. Il y a l'ambiance à Marseille un peu ou pas, ça va?
Oui, ça va bien, tout va bien, je t'assure. Mais on est bien à Marseille, hein. Bon. On va très les résultats bien.
Du... Ouais, c'est ça, voilà, je voulais pas le dire. Mais
comment ils ont pris ça, oui.
Hein?
Les résultats du foot, comment ils ont pris ça, les Marseillais?
Ah, le foot, oh là là, ils sont fait violer par Paris Saint-Germain.
Ah, bah oui. Et sur le port, il n'y a pas eu trop de casse, ça va?
Non, 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 moi si j'avais su, j'aurais mis une écharpe de Paris Saint-Germain, je me serais mis devant le stade, et quand tu dis Paris, 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 on t'encule, moi j'attends devant le grillage. moi je serais pas rentré.
Bien, bien, bien.
Bon, 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 et bah écoutez. Mais, voilà.
Ouais, c'est bien.
Edouard, une ça, petite musique bien. De Soweto, peut-être.
Ouais, écoutez, ça, on t'embrasse très très fort, Mouchtar.
Et qu'est-ce que tu fais là-bas en Afrique du Sud?
Je tourne un film.
Ah, je crois que tu faisais le boulot de... Comment elle faisait Naomi Campbell à la porte-baisse de valise avec Katusha.
Ah. Ah, quand les gens allaient chercher des diamants, mais ce n'était pas là-bas. Je crois que c'était avec un autre président. C'était avec le terrible Taylor, là, le mec qui... des enfants soldats. C'est d'autres histoires, d'autres pays.
Ah, je crois que c'était pour Bokassa.
Non, ça, c'est encore autre. C'est, bon, je vous
Au revoir, Mouchta.
Salut, Mouchta. Salut à tous. Retour, concentration.
Oui, oui, il faut...
Il faut se reprendre en main.
Bien sûr.
Sinon, là, moi, j'ai plein d'appels d'auditeurs.
Et Edouard, vous êtes très calé en Afrique, là, quand même, sur l'Afrique et les pays et l'histoire.
Il nous expliquera ça après les infos, Thierry Paré.
Six semaines après le début de son mandat, marqué par plusieurs polémiques, Donald Trump a précisé son programme devant le Congrès américain cette nuit. Il a notamment réaffirmé sa volonté de supprimer l'Obamacare. Il a dressé un bilan catastrophique de l'administration précédente, rappelant que 43 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. Il a promis de ramener des millions d'emplois aux États-Unis en appliquant de façon stricte les lois sur l'immigration. Il a promis aussi de détruire l'État islamique. Il a aussi déclaré que le pays allait bientôt commencer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. On ne pouvait pas les manquer. Des dizaines d'élus du Parti démocrate ont revêtu une tenue blanche à l'occasion de ce discours de Trump au Congrès pour soutenir les droits des femmes. Manuel Valls exprime son inquiétude face à la campagne de Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre a réuni ses proches hier soir, un mois après sa défaite à la primaire. Il met en garde contre le FN et s'interroge sur la stratégie du candidat socialiste. Depuis le ralliement de l'écologiste Yannick Jadot à Benoît Hamon, plusieurs personnalités socialistes ne se cachent plus pour critiquer leur candidat. Pour la troisième fois, la Commission européenne n'est pas parvenue hier, faute de majorité, à soumettre au vote un nouveau projet de réglementation des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques dangereux, omniprésents dans l'environnement. Résultat, le projet de réglementation en vigueur va le rester. Un projet de réglementation jugé bien trop indulgent. On en reparlera vers 8h10, Thomas.
Oui, oui, vers 8h10, on sera avec Stéphane Aurel, qui est une spécialiste, journaliste spécialiste de la question des perturbateurs endocriniens et de cette question justement du règlement qui n'est toujours pas pris par la Commission européenne.
Un tir accidentel a fait 2 blessés hier lors du discours de François Hollande qui inaugurait la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Un militaire qui se trouvait sur un toit pour surveiller l'événement a trébuché en voulant changer de position. Les personnes blessées ont été touchées aux jambes. Moi,
juste dire, je salue la dignité de François Hollande qui n'a pas bougé, qui a été d'un sang-froid exemplaire. Si on le compare avec Trump, on lui avait sauté dessus, Trump, il s'était barré comme un vieux lâche. Là, je trouvais que Hollande, pour finir son mandat, il a montré une leçon de courage. Voilà.
Enfin, j'aurais compris qu'il s'en aille en même temps.
Et la dignité de ses gardes du corps qui n'ont pas bougé non plus.
Qui n'ont pas bougé non plus.
C'est ça surtout, en fait.
Voilà. Et ma dignité à moi qui écoute tout ça sans parler.
Ouais, mais non, mais il faut le saluer quand même. Moi, je trouve.
L'enquête sur la famille disparue à Orvault progresse. La police a diffusé une fiche de recherche au niveau national. Elle soupçonne désormais le fils de la famille, Sébastien Troadec, d'avoir, je cite, mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. La célèbre société de vente aux enchères parisienne Drouot va mettre aux enchères mardi prochain le squelette d'un dinosaure vieux de 66 millions d'années. Alors cette info n'aurait rien d'insolite si ce squelette n'avait été retrouvé au Maroc. Et cette vente n'est pas du tout du goût des autorités marocaines pour deux raisons. D'abord, ce squelette, c'est un spécimen unique dont la valeur historique est inestimable, mais surtout parce qu'il a été illégalement exporté vers la France, donc volé au Maroc. La mise à prix de ce dinosaure entre 350 000 et 400 000 euros. C'est surtout les musées qui sont sur le coup, évidemment. Angers, Fréjus-Saint-Raphaël, Bordeaux, ce sont les trois premiers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. Angers est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Bastia hier soir. Fréjus-Saint-Raphaël, le petit pousset comme on dit, à domicile a battu Auxerre 2-0. Enfin Bordeaux à domicile s'est imposé 2-1 face à Lorient. Suite des matchs ce soir, Niort va recevoir le PSG, Marseille va recevoir Monaco, l'USC Villiers va recevoir Guingamp et Avranches va recevoir Strasbourg.
Les gens me demandent s'il y a toujours ce truc qu'on appelait la météo flamenco.
Oui, oui.
Lailo, laila, lailo, lailo. Attention, voici les températures. Il pleut dans toute la France. Couvrez-vous, sortez vos pébrocs. À Amiens, il fera de 6 à 9. À Bordeaux, de 8 à 16. Boulogne-sur-Mer, de 6 à 8. Montpellier, de 7 à 16. Poitiers, de 4 à 14. Saint-Étienne, de 7 à 11. Vienne, de 8 à 13. Évreux, de 4 à 12. Et Paris, de 6 à 12.
Voilà. C'est la météo 7e compagnie.
Voilà, vous avez reconnu Tom Sawyer.
C'est Tom Sawyer.
Tom Sawyer. Et dis-moi, quand il y a des quand il pleut, il y a des escargots.
Oui, c'est vrai.
Comment
c'est pour
tu les manges, toi, Tito, les escargots?
Ah, moi, les escargots, je les mange par la tête directement, puisque je les fais cuire, tu sais, de la façon qu'ils meurent dans le bouillon, en les faisant à l'eau froide. Tu montes le feu d'un seul coup, crac, ils meurent dehors. Et comme ça, t'as plus besoin de pique pour les manger.
Mais pourquoi vous faites ça?
Parce que c'est très bon, les escargots.
Vous êtes un escargot, attends, vous?
Ouais, oui.
Vous avez une tête à corne.
Merci.
Bravo.
J'ai tout entendu. Envoyez Jack souvent.
Alors, Jack souvent est parti, mais pas encore arrivé. Donc, je propose qu'on lui donne rendez-vous juste après la pub.
Je m'en fous, débrouillez-vous.
Non, mais attendez, on a de la musique ici, nous aussi. Il y a une musique africaine.
Je m'en fous.
Mais non,
je m'en fous. Je suis en prison.
Ok, c'est résolu.
Bon, vous voyez quand on s'énerve, ça marche.
Non, mais pas tout le temps. Là, oui. Mais souvent.
Vous l'avez eu, là, Jack?
Jack?
Ouais, je suis là.
T'es pas en prison.
Kenavo?
Bah, Kenavo, j'ai tout oublié, moi. J'ai tout oublié. Monsieur?
Ah, merde.
Vous avez oublié quelque chose?
Non.
Vous avez tout avec vous?
Oui, oui. J'espère.
Okay. Il a tout, lui. Bonjour.
On est où?
Qu'est-ce que t'as oublié, toi?
Rien.
T'es sûr?
Oui.
T'as tout avec toi?
Mm-hmm.
Bon, je suis devant le hall des expositions. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez oublié?
Rien du tout. Rien.
Vous avez tout avec...
Oui, tout.
C'est vrai?
Oui, vraiment.
Moi, j'ai tout oublié, moi. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez oublié?
Rien oublié. Du tout.
Pourquoi vous dites que vous avez rien oublié?
Ben non, pourquoi j'aurais oublié quelque chose?
Je ne sais pas, moi. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez oublié?
Rien.
Tout le monde dit rien, mais moi, j'y crois pas, là.
Non, je vous assure, rien qui puisse se retrouver.
Et en cherchant bien?
En cherchant bien, rien.
Ça, c'est intéressant. Moi aussi, je cherche. Monsieur?
Merci.
Vous avez oublié quelque chose?
Dans la rubrique que vous venez d'entendre, l'artiste conceptuel Jack Souvent a voulu poser la question « Qu'avez-vous oublié ?» En demandant aux gens ce qu'ils ont oublié, ils cherchent à leur faire dire ce qu'ils se rappellent et se définir ainsi, entre l'oubli et la présence, entre l'avenir et le passé. Sommes-nous le présent? Sommes-nous une somme d'oubli ou une somme de misérables petits secrets enfouis en nous? En demandant ce que vous avez oublié, Jacques Souvent ne parlait pas des clés, de ses lacets, de son adresse, de son code, mais simplement ces choses qu'il faut laisser derrière soi pour avancer. Ses hontes secrètes, ses remords, ses regrets. Et vous, qu'avez-vous oublié?
Nova, plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
De 7h à 9h, plus près de toi.
Bonjour à tous, alors on en est où? Là dans le studio, ça commence à se remplir chez vous?
Oui, il y a du monde qui vient d'entrer dans le studio, pas mal de monde pour parler, Edouard, d'une initiative un peu particulière qui sonne un peu comme un canular, qui en est un d'ailleurs, mais ça en dit peut-être un peu plus qu'un canular.
Ah bah, si vous nous l'annoncez avant, moi je m'en vais.
Mais non,
vous me dites avant les canulars, c'est pas sympa. C'est comme si vous m'appeliez en me faisant croire que vous êtes François Fillon. Après, vous me dites non, c'est pas vrai, c'est Thomas Baumgartner. Je serais déçu.
Oui, mais vous décevoir, mais c'est moi. Hein.
Oui, mais l'intitulé casse le truc, donc on peut enchaîner.
Ben voilà, Tati Daniel.
Voilà, alors,
mais ça s'appelle Obama 2017. Il y a des gens qui veulent qu'Obama, Barack Obama, soit le prochain président français. Donc ça sonne assez rapidement comme une forme.
Non, pas du tout. vous, il a qu'à se naturaliser français, il sera élu. Passez, alors, qui sont ces gens? Passez,
bah, ils ne veulent pas donner leur nom, en plus.
Ils veulent pas donner leur nom.
Ah, bah, alors, personne donne son nom. Tout est faux, si.
Vous avez des pseudos de travail, allez-y, c'est quoi, alors?
Antoine.
Il y a même des enfants. Et Fifi. Et il y a Fifi aussi.
Il y a Fifi.
Bon, alors racontez-nous. Alors,
non, ce qui se passe, c'est que ces gens-là veulent obtenir 1 million de promesses de vote pour Obama en tant que président français d'ici 15 jours. C'est bien ça l'enjeu en ce moment, les uns et les autres.
En gros, c'est parti d'un constat, c'est qu'on en a marre de voter à chaque fois pour contre des gens plutôt que pour un candidat. Et cette fois, on s'est décidé à faire la campagne d'un mec pour qui on avait envie de voter.
Alors en ce moment, faire la campagne, ça veut dire quoi? Il y a des affiches, on peut signer en ligne. Enfin, c'est quoi faire la campagne de Barack Obama sans qu'il soit forcément au courant?
Pour faire la blague, on a effectivement reproduit un peu tous les éléments de campagne, donc en partant par des affiches, créer un site internet, une présence sur les réseaux sociaux.
Mmh. Ne dites pas que c'est une blague, ça ne plaît pas à Edouard.
On est devenu tout de suite très sérieux.
Ce n'est pas une blague, c'est une fake news.
Non, mais c'est ça en fait. Ce qui est intéressant avec cette campagne qui existe, hein, on peut aller sur un site, vous avez monté un site Obama de 2017, c'est qu'on est dans une forme d'ambiguïté quand même. C'est-à-dire à l'heure où le Gorafi, ce site qui annonce des infos plus ou moins vraies, est rattrapé par la réalité des choses, vous avez décidé d'une certaine manière d'une forme de radicalité avec cette vraie fausse campagne qui a tout d'une vraie et qui n'est pas forcément fausse.
Alors en fait, c'est pas une fausse campagne dans le sens où on a invité les gens à signer une pétition pour que Barack accepte de se présenter. Donc en ça, on est dans le vrai, c'est une vraie pétition. Mm-hmm. Après, de là à ce que la réalité fasse que ça devienne possible, on en est un peu loin.
Mais est-ce que vous savez, Edouard?
Non, je vous en prie.
Non, est-ce que je me leur demandais si vous savez quel effet ça aura si jamais aujourd'hui il y a une cinquantaine de milliers de personnes qui ont quand même, ce qui est quand même conséquent, fait cette promesse en ligne de vote pour Barack Obama, vous en espérez 1 million, mais même si vous atteignez ce million ou même moins, ou même déjà 50 ou 100 000, quel effet ça peut avoir? Est-ce que c'est pas que pataphysicien, on va dire, c'est pas que absurde cette démarche?
Non, effectivement, l'idée c'était dans un premier temps surtout d'interpeller. On est... Donc, l'idée est née il y a quelques mois de ça déjà, donc c'était bien avant tout ce qui a pu se passer aux élections américaines, les primaires françaises. Notre intérêt était effectivement d'interpeller, on anticipait un peu une élection qui se présentait un peu moribonde. Et voilà, effectivement, on voulait interpeller les consciences. Quoi.
Le message sous-jacent, c'est aussi, il n'y a aucun des candidats qui nous fait rêver aujourd'hui. Et ce mec a suscité chez les Américains un engouement et un ralliement de tout le monde autour d'un projet que nous, on ne trouve pas en France. Et c'est ça qui nous manque.
Oui. Mais le mot sous-jacent...
On n'est pas là pour analyser la politique d'Obama. C'est vraiment le candidat qui nous intéresse, ce qu'il représente.
Son physique, c'est son physique.
Les gens votent généralement pour un candidat et ce qu'il incarne, son authenticité, son leadership... avant son programme, et c'est ce qu'on a fait. On ne s'est pas intéressé à ce qu'Obama avait fait aux États-Unis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sa personne, son aura, et c'est... Voilà,
pour la campagne...
Atmen.
Oui, pour la campagne...
Je suis obligé de reprendre l'antenne, vous avez dit le mot sous-jacent. Oui, et à partir de là, dire sous-jacent à 7h45, c'est criminel, c'est très grave.
Mais il y a aussi du surjacent dans ce projet, je pense.
Vous gardez le slogan de la campagne, Yes We Can, vous le traduisez par Oui On Peut, ou comment ça se passe?
C'est ça, c'est Oui On Peut.
Oui On Peut.
Oui On Peut.
Mais oui, mais là, vous parlez du physique et des vêtements, moi je pensais que vous étiez sur les programmes. Ici en Afrique du Sud aussi, une candidature Obama est en train un peu de progresser dans les esprits. Je suis avec une jeune fille, une jeune sud-africaine des environs de Johannesburg. What do you think about Obama for president in South Africa next year?
Wow. I can't say. I don't want him to be the president of South Africa.
Why?
Well, I don't think there is a better president. We always complain about the other president and the other president. We can't have a perfect president. If we do have, we should be satisfied with what we have.
Voilà, il faut arrêter de ne pas être content de ce qu'on a. Vous comprenez ce que je veux dire? En ce moment, Yolande, c'est très bien. Demain, vous aurez un truc en on, ça sera bien.
Pas forcément. Arrêtez de...
Et puis alors, quand on dit on veut Obama, mais on veut pas son programme, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il fait, c'est lui. Là, on est dans la showbisation totale du politique. Foutez-moi tous vos invités en taux, là.
Non, on les garde, ils sont super.
Mais oui, mais derrière, est-ce que vous préparez Angela Merkel 2022?
Poutine 2022, peut-être.
Ah, voilà, vous savez parier sur...
Pompidou. Ouais. En tout cas, si Obama est président, il sera...
Attendez, il y a un grand mouvement ici. Chirac.
et
Chirac,
t'es tout seul, mon con. Je te le dis, là, t'es tout seul. Non, je préfère te le dire, là. Tout seul. En tout
cas, voilà, est-ce que Barack est au courant, si on peut l'appeler par son petit nom?
On y travaille, là.
Parce qu'il y a eu beaucoup de presse, notamment anglo-saxonne.
Oui, beaucoup, effectivement, aux États-Unis. Ça a été
pas au courant.
Ah, bah, non, c'était un petit enregistrement. Non, oui, non, sérieusement, vous pensez qu'il peut réagir?
Oui, effectivement. Enfin, côté presse, il y a eu énormément de retours côté outre-Atlantique, depuis peu en Angleterre. Et c'est vrai qu'à mon avis, il en a entendu parler. Je pense qu'il est effectivement sur un agenda après un mois de vacances. On le voit tout juste revenir. Et effectivement, je pense qu'il a d'autres chefs à fouetter un peu plus importants.
Il est chez Richard Branson, il fait du kitesurf, j'ai vu.
Oui, on a vu ça. Il avait l'air de...
Il avait l'air de s'amuser, enfin, de se détendre. Merci d'être passé là. Vous restez anonyme, mais le site ne l'est pas. L'adresse du site pour signer éventuellement la promesse de vote, puisque vous avez besoin d'un million de signatures d'ici 15 jours.
Ouais, voilà, 500 000 suffirait.
Ouais.
Il y en a combien pour le moment?
Il est en studio et personne ne l'interroge. Je l'ai entendu chez vous.
Mais oui, il est là.
Posez-lui des questions.
Allô?
Allô? Bonsoir. Comment ça va? La pêche?
Ouais, je vais vraiment très bien. Là, j'ai un peu mal au dos, mais ça va sinon.
Qu'est-ce qui s'est passé à ton dos?
Ben, je fais une rupture des ligaments croisés du dos.
Une interview exclusive de Barack Obama. Prévenez vos amis, Barack Obama est en ce moment sur Radio Nova à 7h48. Soyez gentils, prévenez vos amis, c'est très rare, on ne savait pas qu'il parlait si bien français.
J'ai pris un peu de ventre.
Pardon, plein de questions à vous poser, mais il y en a tellement, c'est tellement intimidant, tous les journalistes du monde voudraient être à ma place, alors ça va sinon là,
C'est chouette la vie quand même.
Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, je ne suis pas le meilleur.
Oui, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai pris un bon café, après j'ai pris un thé.
Les études des filles, ça va?
Ça va, pas trop avec Charline, mais j'ai oublié son prénom.
Super interview.
Vous pourrez dire j'y étais. Vous pourrez dire c'est ce matin-là, ce 1er mars-là, j'ai assisté à cette interview exclusive pour Radio Française.
Vive la France!
J'ai été dans l'histoire, j'ai vécu ce moment rare de radio. Après l'enterrement d'Atmen Khelif. Non, pas merci. C'est quoi ça? Au revoir. Musique, on va faire du sport. Après, on fait de la gym.
Musique. 7h, 9h, plus près de toi.
Bon, ce qui est servi, alors voilà, on a eu une très très bonne pub. Ça, vraiment, vraiment, on est content. On va écouter Rémi et Sampa The Great. Et tout de suite après. Un enfant, un poème, une rubrique qui est déjà acclamée, que le monde nous envie. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Parce que des linos, il y en a d'autres, tu en connais d'autres, des linos?
On a deux autres dans l'école.
Mais pas dans la même classe?
Pas dans la même classe.
Et le vrai lino, c'est toi ou c'est eux?
C'est moi.
C'est toi le vrai. Les autres, c'est quoi? Les autres, c'est des linopharyngistes ou des genoux, oui. Et t'es content? Et tu sais, tes parents, ils t'ont dit pourquoi ils ont choisi ce très beau prénom?
Non.
Parce qu'il y a un acteur qui s'appelait Lino Gabin, qui jouait très bien. Oh, je vais te dire un truc, ça fait très mal. Tu verras, tu demanderas quand tu seras plus grand à tes parents. Et Lino, toi, tu aimes bien, je crois que tu nous avais dit, j'aime bien la poésie, mais j'aime bien chanter aussi, c'est vrai?
Oui.
Et tu chantes à la maison?
Oui.
Tu chantes sous la douche?
Parfois,
sous la douche aussi?
Oui.
Si tu chantes sous la douche, ne mets pas ta tête en haut parce que tu vas boire, tu vas avoir plein d'eau.
Et puis, faut pas prendre...
parce que tu vas ouvrir la bouche sous le... Pardon, Jean-Noël Mistral?
Il faut débrancher le micro.
Non, parce qu'il y a pas... Il chante sans micro, je prends Jean-Noël. Non, là, le micro, c'est juste parce qu'on a la radio.
Moi, parfois, je prends le jet de douche.
Oui?
Pour faire le micro?
Oui.
Oui, tu joues... Tu joues à la... Oui, c'est beaucoup mieux. Tu joues à la radio avec le jet de douche. On peut jouer avec tout, avec un pot de yaourt aussi. Tu n'as jamais essayé?
Non.
Il faut le manger avant.
Essaye avec un pot de yaourt. Et puis, essaye aussi de voler de l'argent dans le sac de ta mère. C'est toujours des petits jeux rigolos qui font bien rire à la maison. Lino, qu'est-ce que tu aimes bien faire d'autre? Du sport? Des activités?
Du sport.
Quoi, par exemple?
La balle américaine.
La balle américaine, c'est la balle au...
C'est le baseball, je crois.
C'est la balle au prisonnier.
Pardon.
C'est donner la balle au prisonnier.
Oui.
Oui, alors ça, c'est votre chanson pour les prisonniers. Non, j'en ai le Mistral qui est très belle. On y reviendra. C'est très beau ce que vous avez fait, votre opération, une chanson, une prison. Mais Lino, donc on a ce jeu-là. Est-ce que tu as des petits frères et sœurs à embêter ou tu n'en as pas?
J'en ai pas.
Bon, tu voudrais bien embêter un petit garçon ou une petite fille plus tard, un petit bébé à embêter ?
Bah non, mais j'aimerais bien jouer.
Jouer avec qui ?
Avec un petit frère ou une petite sœur, parce que je m'ennuie tout seul.
Bon, alors passe-moi, ta mère qui a... passe-moi ta mère qui est à côté de toi. Madame.
Oui, madame, on a pris un chien quand même.
Oui, mais bon.
Très bonne réponse.
Qu'est-ce qui est prévu ? Il y a d'autres enfants de prévus ? Enfin, est-ce qu'il y a des enfants de prévus dans les 10 années à venir ?
On essaye.
Bon, bah alors t'inquiète pas, mon vieux, ça va venir. Et en attendant, tu peux jouer avec des copains dans ta classe. T'as des copains ?
En même temps, c'est important la solitude.
Oui.
C'est important de rester seul.
Mais en tout cas, je suis sûr que t'as plein de copains parce que tu es très sympathique, Lino.
Non, j'en ai que un.
Et bah oui, mais un, c'est un vrai ami ?
Oui.
Ah bah c'est déjà pas mal, je peux
Il
dire.
Il va venir à la maison ce soir.
Bon, et alors vous allez chahuter un peu ?
On va jouer, on va se déguiser.
En quoi ?
Bah, j'ai plein de déguisements. Un de Spider-Man, un chevalier, un dragon, aussi un robot.
Oui.
Aussi astronaute.
Oui.
Et voilà.
Bah, c'est déjà pas mal, tu sais, c'est comme dans la chanson de la Compagnie Créole. Quel plaisir de respecter la coutume. Spider-Man, Iron Man.
Obama masqué, cher... c'était. Obama masqué.
Mon cher Lino, on va t'écouter. Et je crois que c'est une surprise, puisque c'est une chanson que tu as un point commun avec Jean-Pierre Raffarin, c'est que tu aimes beaucoup Johnny Hallyday. On va t'écouter, alors. À toi, cher Lino.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et de plumes essoufflées sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne voudrais plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné.
Ouais,
ouais, ouais, ouais, ouais, ouais,
ouais. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Là, je peux plutôt faire des fausses notes. Mais oui, j'arrivais pas, je me suis trompé.
C'était Pinou Latouka, là. Vraiment Pinou Latouka.
Lino, écoute-moi, sur un truc, tu peux me faire confiance, tu vas te faire plein de copains dans la vie, ça j'en suis sûr, parce que tu es vraiment sympa, ne t'inquiète pas. Jean-Noël, vous avez écouté cette chanson, vous m'avez dit, c'est l'enfant qui fait poésie, ça n'est même pas la chanson elle-même, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est sa nature à lui, c'est ça qui est poésie, c'est Lino qui était la poésie.
C'est le vent, c'est son souffle qui sortait de lui, qui a créé une sorte de vent de poésie et qui nous a emporté comme une bourrasque. Étincelante, et c'est vrai qu'à un moment donné, là-haut dans les nuées, quand on entendait le nom Gabriel, on était comme subjugué, comme terrassé, comme presque mort.
Il aurait pu dire, même on dit dire l'annuaire, ou il aurait pu dire un menu de restaurant chinois, il y aurait eu la même poésie, c'est sa force poétique à lui.
Je pense que c'est ce qu'il n'avait pas fait, c'est ce qu'il a fait. Non, pardon, je ne sais pas, je rigole, j'aime rire.
Rire, c'est important.
C'est important de rire, ça permet de débloquer le larynx. Et
vous me disiez aussi, par les temps qui courent, le rire est vraiment une arme de libération de soi.
C'est une arme de libération, c'est une façon de se libérer dans le sens de libération.
Rire pour ne pas mourir, rire pour ne pas subir, rire pour avancer.
Pour tomber et se relever.
C'est ça, tomber 100 fois, se relever 2.
Se relever deux fois, ce qui fait qu'on retombe.
98,
quand on est debout et qu'on on essaye de se relever, on
faut
tombe.
Pas se relever. On tombe. Mais le rire est là, le rire est là, le rire avec ses dents, les dents du rire. Hein. Parce que quand on ouvre la bouche, le rire fait ouvrir la bouche, vous me disiez.
Oui, attendez, le rire fait ouvrir la bouche.
Et vous me disiez aussi, quoi de beau, de plus beau que de voir le rire à gorge déployée, hein, le mot existe, parce que vraiment, c'est toute la beauté, on plonge dans l'autre.
C'est ça, c'est ce moment-là, c'est l'onde du rire qui déshabille complètement le corps et la gorge sort. Ça se voit beaucoup chez les femmes, parce qu'elles ont plus de gorge que nous.
Et vous me disiez aussi, c'est très beau une femme. Mais ce
c'est
qui est très beau...
une femme, je trouve.
Le rire, c'est vraiment le propre de l'homme, hein, parce que vous me dites, je connais des animaux qui rient, mais c'est pas, ça ne donne pas ça.
Moi, Je vis dans la forêt, je vis dans les arbres, je vis de la poussière et des champs. Et je peux vous assurer que les animaux rient. Et que peut-être ça, c'est peut-être une mauvaise information que vous avez. Parce que les abeilles se font des blagues, elles tournicotent autour d'elles-mêmes.
Alors, je connais les blagues des abeilles. Souvent, ce n'est pas de l'humour très fin chez les abeilles. Hein. C'est souvent des blagues belges, c'est des jeux de mots.
Souvent des blagues sur les pyjamas rayés.
Oui, sur les guêpes et sur tout ça. Mais ça ne vous fait pas tellement rire, ça. Vous me disiez autant sur... Non. Le hérisson fait rire.
Le hérisson est très drôle. Il dit, mes picots. Regardez les pointes, j'ai les piqués. Oh ouais, c'est... Ouais,
on voit, c'est ouais. Tout un... Voilà.
Et des fois, il y a des hérissons qui se démilitarisent, c'est-à-dire ils se mettent des balles de ping-pong sur les piques pour pouvoir embrasser des gens qui n'ont pas de piques.
Bon, c'est d'autres cultures, hein, faut pas juger.
Ça, c'est autre chose. Non, c'est autre chose.
Complètement. Nous, on est là avec notre statut d'humain, de roi de la création. On s'autorise peut-être à juger les humours animaux un peu facilement. Est-ce qu'on écoute un très court poème de vous juste avant de rendre l'antenne à une meilleure radio?
Très bien.
Très court. Hein.
Ce poème s'appelle Chante, chante, Rossignol chante.
Pourquoi au féminin?
Chante. Non, c'est un verbe.
Elle s'appelle. Elle s'appelle, vous m'avez dit en parlant d'un poème, pourquoi?
Parce que je pensais plutôt à la poésie, et c'est vrai que pour moi la poésie c'est plus féminin, mais pas dans le sens sexuel, hein. Le féminin dans le sens faiblesse.
Je me rappelle quand on vous avait...
Je retire ce que je viens de dire tout de suite, je retire par rapport à cette...
Quand vous aviez, vous étiez hospitalisé, je me rappelle à l'époque où on vous aviez mis une jambe de bois, et vous parliez beaucoup des femmes et de leur absence. On vous écoute tout de suite dans cette poésie.
Chante, chante, Rossignol chante. Chante, chante, Rossignol, chante. Tu chantes, Rossignol. Tu chantes. Rossignol, tu chantes, chante, Rossignol, chante. Chante, Rossignol, tu chantes. Rossignol, tu chantes. Rossignol, chante. Chante, tu chantes, Rossignol, chante. Tu chantes la nuit, tu chantes le jour. Tu chantes quand il fait beau, tu chantes quand il pleut. Oh, Rossignol, chante, chante. Rossignol, chante, chante. Rossignol chante, chantez. Chante, chante, Rossignol. Chante, Rossignol chante, chante.
Chante, oui.
Chante,
chante,
chante, Rossignol chante.
Adlib, Adlib.
Chante, chante, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Chante, chante. Tu chantes, Rossignol.
Chante.
Chante, Rossignol chante, tu chantes. Rossignol. Tu chantes, chante. Rossignol. À travers. La brume.
Oh là là, ça se complique, non?
Parpillant les oiseaux comme des moineaux qui lancent des pierres.
Je suis obligé de vous interrompre.
Chante,
là.
Chante, Rossignol, tu chantes. Tu chantes.
Édouard, Jean-Noël,
c'est pas fini. Non, chante, non. Chante.
Après, à la fin du pavillon, il y a eu un moment moins clair au moment.
Tu chantes, Rossignol, chantez. Chante.
Continuez hors chante. Antenne. Jean-Noël, je suis obligé d'envoyer le journal de 8h parce qu'il est 8h06. Les restes en tête.
Pour la troisième fois, la Commission européenne n'est pas parvenue hier, faute de majorité, à soumettre au vote un nouveau projet de réglementation des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques dangereux omniprésents dans l'environnement. Résultat, le projet de réglementation en vigueur va le rester, un projet de réglementation jugé bien trop indulgent. On va en reparler sur Nova dans quelques petites minutes, une dizaine de minutes, avec Stéphane Aurel, journaliste indépendante et documentariste. Il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens qui perturbent l'environnement, il y a aussi les gaz hydrofluorocarbures qu'on trouve dans les réfrigérateurs ou les climatiseurs, donc partout dans le monde, et qui contribuent fortement à l'effet de serre. Eh bien, les îles Marshall, archipel d'Océanie exposé à la montée du niveau des mers en raison du réchauffement climatique, est le premier pays au monde à interdire ces gaz. L'an dernier, près de 200 pays, dont les États-Unis, ont signé un pacte à Kigali pour la réduction de ces gaz. Ce pacte ou accord doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019, à condition d'être ratifié par au moins 20 pays, donc il n'en manque plus que 19. Bien qu'il n'y ait pas de données officielles, les violences à l'encontre des enfants seraient largement sous-estimées, et notamment pour ce qui concerne les nourrissons. Le gouvernement doit dévoiler aujourd'hui le contenu d'un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Manuel Valls exprime son inquiétude face à la campagne de Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre a réuni ses proches hier soir, un mois après sa défaite à la primaire. Il met en garde contre le FN et s'interroge sur la stratégie du candidat socialiste. Depuis le ralliement de l'écologiste Yannick Jadot à Benoît Hamon, plusieurs personnalités socialistes ne se cachent plus pour critiquer leur candidat. Un tir accidentel a fait deux blessés hier lors du discours de François Hollande qui inaugurait la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Un militaire qui se trouvait sur un toit pour surveiller l'événement a trébuché en voulant changer de position. Les personnes blessées ont été touchées aux jambes. Six semaines après le début début de son mandat marqué par plusieurs polémiques. Donald Trump a précisé son programme devant le Congrès américain cette nuit. Sur un registre plus présidentiel qu'à l'habitude, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a appelé de ses voeux le renouveau de l'esprit américain, sans donner beaucoup de détails hein, sur le financement de ses projets phares. Il a notamment réaffirmé sa volonté de supprimer l'Obamacare. Il a dressé un bilan catastrophique de l'administration précédente, rappelant que 43 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. Il a promis de ramener des millions d'emplois aux États-Unis en s'en appliquant de façon stricte les lois sur l'immigration. Il a aussi promis de détruire l'État islamique et il a aussi déclaré que le pays allait bientôt commencer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. L'enquête sur la famille disparue à Orvault progresse. La police qui a diffusé une fiche de recherche au niveau national soupçonne désormais Sébastien Troadec, le fils de la famille, d'avoir, je cite, mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. Un accident grave avec un char a gâché pour la deuxième nuit consécutive l'ambiance de fête du défilé des écoles de samba au carnaval de Rio au Brésil. 12 personnes ont été blessées après l'effondrement d'une plateforme sous le toit des danseurs. Dimanche soir, déjà, hein, le dernier char de la première école de samba entré en scène avait blessé au moins 20 personnes en percutant une des tribunes. Et puis Angers, Fréjus-Saint-Raphaël et Bordeaux, ce sont les trois premiers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de football.
Chante, chante, Rossignol chante. Chante, Rossignol chantez. Chante, Rossignol.
Chante.
Chante, Rossignol chante. Chante, tu chantes, Rossignol.
Jean-Noël Mistral
Rossignol,
nous dit le Rossignol.
Tu chantes,
un poème
tu chantes,
surprenant toujours, inquiétant
Rossignol.
Parfois.
Tu chantes, chante, Rossignol chanté.
Répétitif, je ne sais pas.
Chante, chante.
En tout cas, les nuances sont chante, là, le Rossignol est vraiment là, et pour ceux qui aiment les Rossignols, chante. C'est bien. Les autres, évidemment.
Les autres, chante.
Merci Jean-Noël Mistral. Arrêtez de donner que des mauvaises nouvelles. Du défilé, c'est pas, vous ne parlez du défilé du carnaval de Rio quand il y a des chars qui tombent. Enfin,
parlez-en, hein, Edouard, vous y étiez.
Hommes, on ne parle des hommes que quand ils tombent, n'est-ce pas? Regarde les hommes tomber, mais c'est beau un homme debout. Mmh. Alors je voulais vous parler des chars qui étaient debout. Oui. Et par exemple, Mariam Kaba, qu'on avait interviewé là quand j'étais à Rio, qui était avec la Villa Isabelle, qui est une des grandes écoles de samba, c'était absolument triomphant. Ils étaient, on attend le classement. C'était un thème autour des racines africaines de l'Amérique centrale, et je crois que ça a été un très, très grand succès. Il y a eu des choses magnifiques. Il y a eu un autre char qui était autour de Versailles et de Fouquet, qui était absolument...
Je l'ai vu celui-là, moi, à la télé, il était magnifique. Ouais.
Donc voilà, de la beauté, de la grandeur, parfois des hommes tombent, des gendarmes aussi. François Hollande est debout, nous aussi. À tout de suite.
Nova.
7h-9h, Edouard Baer.
Tout ça pour ça.
Duplex France Afrique du Sud. Ici on est calme. Mais vous, est-ce que Jack Souvent est dans les rues?
Jack?
1114 kilos. Ouais, dis donc, ça c'est bon, c'est un bon score ça.
Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça fait partie des gros bovins. Bon, on a vu beaucoup plus lourd aussi, 1600, 1700 ce matin.
Arrêtez.
On n'a pas battu le record de l'année dernière qui était de 1950, mais On a des beaux bestiaux ce matin.
Ouais, parce que là, c'est étrange, ces balances, là. C'est quoi exactement?
Alors, c'est des bascules d'épaisse bétail maréchal. Hein. Ça fait une quarantaine d'années qu'on est présent pour la peser. Et c'est d'épaisse personne, mais on va dire ça pour les animaux, quoi.
Vous êtes pesé, vous pesez combien?
Moi, j'ai commencé le salon, je faisais 83. Là, je suis rendu à 85.
Mais il a à peine commencé le salon de l'agriculture, vous avez déjà pris 2 kilos?
Ouais, on mange plutôt bien ici, hein. Ouais.
Moi, j'ose pas me peser. Hein. Moi, j'ose pas me peser du tout.
Bon, alors, c'est quoi cette année? Il paraît que c'est morose, que ça va être, je sais pas, que les agriculteurs sont trop en colère pour qu'il y ait une bonne ambiance au salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur?
C'est vrai que la conjoncture est pas idéale, mais ça reste un marché porteur. Je pense qu'il faut investir. Bon, les élections ont tendance quand même à stériliser toute activité. Donc, bon, on va attendre l'échéance électorale et puis je pense que l'activité va reprendre derrière, les cours vont remonter. On va compter là-dessus.
J'ai lu un chiffre qui m'a choqué, qu'un tiers des agriculteurs vivraient avec moins de 500 euros par mois. Vous le vivez autour de vous, ça, monsieur?
Ouais. Alors, moi, je suis plutôt dans l'activité commerciale, hein. Donc, je suis en contact avec les éleveurs au quotidien. Et c'est vrai que, ils vivent... avec très peu, quoi. C'est difficile. C'est vraiment dur.
C'est des chiffres qui m'ont frappé. Alors, ouais, là, donc là, on est où? On est avec les bestiaux, là?
Là, on est sur le ring, en fait, donc du salon de l'agriculture. Ah, oui. Hein, on est en plein milieu, là. On est au cœur du salon. Voilà, on vient de finir la pesée. Je pense qu'il y a encore quelques animaux qui doivent venir pour finir.
Mais c'est le concours de quoi, là? Là, ça va être quoi? C'est le prix de quoi, là?
Alors, c'est le concours général agricole. En fait, tous les animaux sont pesés au niveau cantonal, départemental, régional, tout au long de l'année. Et les vainqueurs, en fait, s'affrontent ici à Paris pour des concours. Alors, ils sont jugés sur la conformité, donc l'esthétique du poil, l'esthétique de la musculature, la qualité des pieds et puis le poids. Donc, pardon ?
Non, je vous écoutais, ouais.
Et donc, ils sont pesés ici pour le concours final, quoi. Donc, voilà. Et à la fin du salon, il y a des trophées qui sont attribués à ceux qui ont les meilleurs critères.
Aux beaux bestiaux. Pourquoi on n'y a pas droit, nous autres, les êtres humains ? Je vois bien rentrer dans le ring et Gérard Depardieu qui avance et ensuite un type comme ça, à la pesée, il l'emporte. Mais sur la douceur du poil, c'est quelqu'un d'autre, ça serait bien ?
Je me présente tous les ans, moi, mais je n'ai jamais rien gagné.
Qui vous voyez dans le domaine public, les acteurs, les politiques, des gens qui ont un beau poil, qui ont un poids qui vous semble de bête de concours?
Bah écoutez, il y a François Fillon qui a de très beaux sourcils.
Il arrive aujourd'hui, là.
Ouais, il doit arriver d'ici une demi-heure, je crois.
Alors ça serait une belle catégorie. En sourcils, on a le Fillon, on a le Depardieu au poil, à peser. Pour le sur le cheveu, ou sur on aurait qui?
Ah bah François Hollande avec son super coiffeur.
Oui, alors bah il serait avec son oui, donc on a vraiment on a du matos, on est bien.
Ah ouais, on a un panel intéressant, hein. On pourrait faire une belle brochette là de vainqueurs là.
Une belle bande de vainqueurs. Bonne journée, cher monsieur.
Merci,
on en
à bientôt.
On a un autre en studio, on a une belle brochette de vainqueurs avec Atman Kelly.
Ouais, sur le poil, ouais.
Oui. Qui on reçoit là?
Oui, alors.
On va discuter dans un instant avec Stéphane Aurel, qui est journaliste indépendante, sur une question dont on a parlé dans les journaux depuis ce matin, qui est la question des perturbateurs endocriniens. Il se trouve qu'on aurait pu entrer depuis hier dans une nouvelle ère écologique, en Europe en tout cas, on aurait pu espérer quelque chose de plus clair, à tout le moins, sur cette question des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est une substance chimique qui est capable d'interagir avec notre système hormonal, le système hormonal des êtres vivants, donc des humains en particulier, et une substance reliée à une multitude de maladies devenues assez courantes. Certains cancers, des questions d'infertilité, des malformations, obésité, diabète, voilà. Et donc il s'agissait hier de valider une proposition qui date d'il y a un an et demi sur les perturbateurs endocriniens, trouver un règlement au niveau européen sur ces perturbateurs. La proposition, elle existe, mais d'une part, elle est loin de faire l'unanimité, et puis d'autre part, donc finalement, elle n'a pas été votée hier, et on va essayer d'en savoir plus avec Stéphane Aurel qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane Aurel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Oui, ce que je disais, il n'y a toujours pas de réglementation, mais on l'attend depuis plus, j'ai dit un an et demi, en fait ça fait 3 ans qu'on attend une réglementation au niveau européen sur ces substances.
Oui, ça fait un petit moment qu'on attend, parce que le point de départ de toute cette histoire, c'est le règlement de mise sur le marché des pesticides qui date de 2009 et qui demandait justement à ce que soient réglementés les perturbateurs endocriniens dans le cadre du règlement pesticides. Et la Commission européenne avait jusqu'à décembre 2013, donc pour le Noël 2013 des Européens, une réglementation des perturbateurs endocriniens, délai qu'elle n'a pas respecté. Et aujourd'hui, voilà, on est en février 2017 et il n'y a toujours pas de réglementation.
Et elle a même d'ailleurs été, la Commission, condamnée par la Cour européenne, non, pour justement ce retard-là.
Oui, en décembre 2015, la Cour européenne de justice a condamné la Commission pour avoir violé le droit de l'Union, ce qui est quand même assez peu fréquent, justement parce qu'elle n'avait pas respecté les délais. Et la Cour a rappelé à cette occasion à la Commission qu'elle était gardienne des traités, c'est-à-dire qu'elle est censée veiller à l'application de la loi européenne, ce qu'elle n'a pas fait sur cette question-là.
C'est une vraie bataille qui a lieu depuis donc plusieurs années sur cette question des perturbateurs endocriniens. C'est une bataille entre quoi ? Entre des lobbies, des scientifiques, certains pays ? Parce qu'on sait par exemple que la France est pour une réglementation assez stricte, par exemple.
Alors au départ, c'est surtout une grosse bataille de lobbying. L'industrie tout entière est totalement opposée à une réglementation des perturbateurs endocriniens, parce que si le point de départ c'est les pesticides, cette réglementation, en fait, il s'agit d'une définition. L'Europe doit dire qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien, ouais, pour pouvoir les interdire ou les en limiter l'usage. Et cette définition, elle s'appliquera ensuite par domino. dans toute la réglementation européenne qui touche de près ou de loin aux produits chimiques. Donc l'industrie chimique concernée, l'industrie des jouets concernée, l'industrie des cosmétiques concernée. J'ai même vu des lobbies du pneu dans les conférences du pneu. Ah oui. Il y a des, en fait, c'est des perturbateurs endocriniens. Il y en a dans à peu près tous les produits de consommation courante. Donc c'est tous les secteurs de l'industrie qui sont opposés à cette réglementation, ou en tout cas qui ont essayé de faire en sorte que la réglementation ne soit pas trop contraignante pour eux. Et c'est ce lobbying qui a réussi à faire dérailler le processus en 2013, dans un premier temps. Et ensuite, c'est des désaccords extrêmement forts au sein même de la Commission européenne, avec des services qui avaient une approche scientifique très basée sur le principe de précaution, qui ont été dessaisis du dossier à l'arrivée de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission. Mmh. Et depuis, on est dans cette espèce d'enlisement et de négociations de bout de gras entre États membres dans le cadre de des réunions d'un comité dont tout le monde ignore le nom.
Alors ça, c'est ce qui se passait hier, c'est au niveau de la Commission, donc de l'exécutif européen. Mais il se trouve que du côté du législatif européen, du Parlement européen, il y a déjà une loi qui est passée et qui est très stricte concernant les perturbateurs endocriniens.
Oui, alors le problème, c'est que c'est un peu les limites de la démocratie européenne, c'est que le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative législative. Et si les parlementaires ont voté ce règlement pesticide de 2009, en fait, ils ont délégué la responsabilité à la Commission de trouver les dispositions exactes qui permettront d'appliquer cette interdiction qu'ils ont décidée. Donc, et cette disposition, c'est justement de définir les perturbateurs endocriniens. Et tant que la Commission n'a pas rempli cette mission, les parlementaires sont un peu impuissant.
Où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens ? Dans ce qu'on mange, dans les produits cosmétiques ? On les trouve, vous dites, dans les pneus, donc ça veut dire que c'est partout ?
Oui, en fait, on les trouve dans à peu près tous les produits de consommation courante, les plastiques, les cosmétiques, les produits d'hygiène, les meubles, etc. Et le problème, c'est qu'ensuite, ils s'échappent des objets qu'ils constituent et on les retrouve dans la poussière, dans l'air, dans la pluie. On retrouve des phtalates qui sont des plastifiants qui servent à faire vos rideaux de douche dans les fourmis au fin fond de la forêt guyanaise. On retrouve des substances qui sont censées rendre imperméables les textiles dans les crevettes des fosses océaniques du Pacifique. C'est-à-dire qu'on est face à une contamination généralisée qui pose une question extrêmement grave, en tout cas très, très globale, sur la société de consommation telle qu'on l'a conçue après la Deuxième Guerre mondiale.
Merci beaucoup. Alors, Stéphane Aurel, de nous avoir éclairé sur cette question-là. Edouard.
Allô. À part la sonorité qui, évidemment, nous inquiète, perturbateur endocrinien, qu'est-ce que ça fait ? Alors, l'amiante, c'était cancérigène, mais c'est quoi les effets sur le corps humain, là, les perturbateurs endocriniens ?
Alors, le problème principal, l'inquiétude principale, c'est que ce qui fabrique les bébés, c'est les hormones. Donc, tout ce qui peut gêner le déclenchement des hormones à tel ou tel moment de la grossesse peut avoir un impact sur la vie du bébé une fois qu'il est né ou 30-40 ans plus tard dans sa vie. Et c'est ça le problème avec les perturbateurs endocriniens. Si quelque chose qui bloque la testostérone se déclenche au moment où votre gène Y décide que vous êtes un homme et non pas une femme, on sait que ça peut avoir des conséquences à la naissance. Et ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais on les relie aujourd'hui à plusieurs formes de cancer, à l'obésité, au diabète, à des problèmes de développement du cerveau. On les relie aujourd'hui à une baisse du quotient intellectuel. Hein. Le QI moyen recule. Il y a des chiffres très précis là-dessus.
Merci beaucoup Stéphane Aurel. On renvoie vers la série d'articles que vous signez pour Le Monde sur cette question-là régulièrement et à votre livre Intoxication qui est paru il y a quelques mois aux éditions La Découverte. Merci beaucoup.
Merci à vous.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
Plus près de toi. 7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Mais, on vient de parler de perturbateurs endocriniens, ensuite on est de la pub. Si on reste là-dessus, on n'est pas bien, on va être énervé, de la pub, des mauvaises nouvelles. Il faut engueuler quelqu'un, ça va nous... Atmen.
Oui, bah, pourquoi moi ?
Bah, bravo, mon vieux.
Mais qu'est-ce que j'ai fait ?
Les perturbateurs endocriniens, bravo.
Mais quoi ?
Tu as entendu ? À cause de ça, il y a des gens qui ont des problèmes sur le QI, des problèmes d'impuissance, des problèmes de stérilité. Bravo, mon vieux.
Mais je suis pas responsable.
Ça va, hein ? Et puis la pub derrière, 2 minutes 30 de pub alors qu'on a...
Eh monsieur, vous avez un problème de thyroïde, hein, moi je te le dis. Hein.
Non, tu dois prendre.
Ah, je prends, alors d'accord. Oui, tu as raison.
Revue de presse de Marie.
De Marie Misset, évidemment.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie,
Missé.
Oui, bonjour tout le monde, on n'est pas en retard. On va parler de beauté, du coup, ce matin dans la revue de presse pour changer des perturbateurs endocriniens. Parce que ce matin, le Figaro célèbre la beauté dans son édito « Ça, c'est Paris ». On y apprend que Madame Figaro remettait hier les prix Beauté Star. Sans doute y a-t-il une part de provocation et d'inconscience, dit la directrice de Madame Figaro, Anne-Florence Schmitt, de célébrer ainsi la beauté dans un monde qui en manque cruellement. Attention, hein, il ne s'agit pas de n'importe quelle beauté célébrée par le Figaro, puisque l'article commence sur ces mots. Une étude menée par les universités Harvard et de Boston prouve qu'une femme maquillée paraît plus compétente et plus digne de compétence qu'une femme avec un visage nu. Il s'agissait bien donc hier au prix de la beauté de Madame Figaro de vendre du maquillage, puisque ce sont les marques qui gagnaient des prix. À ce propos d'ailleurs, sur les femmes maquillées qui ont l'air plus compétentes que les autres, Pierre Barthélémy, dans sa rubrique Improbabologie dans Le Monde, bat en brèche...
Oh là là là,
oui,
oh là, là, là,
mais c'est pas facile à dire. Edouard, essayez.
Bah, dites autre chose.
Improbabologie. Bah, c'est le nom de la rubrique, je peux pas l'inventer. Dans sa rubrique Champignons dans Le Monde, bat en brèche une autre idée reçue. Il n'y aurait pas de prime à la beauté dans les entreprises, comme on le dit depuis des années. Deux chercheurs suivent des ados depuis 1994-1995. Ils les ont notés hein, de super moche à super beau. On imagine sans mal cette phase de l'étude où il devait dire « Ah, lui, très très moche, lui, moyen beau ». Ce qu'il en ressort, c'est que d'après leur étude, 1. La prime à la beauté n'existe pas. 2. En revanche, il existe une prime à la super mocheté. Mais attention, hein, il faut être vraiment classé tout en bas sur leur échelle des moches, sinon ça ne marche pas. Pierre Barthélémy estime que si on ne s'en est pas rendu compte avant de cette prime à la super mocheté, c'est probablement parce qu'on mettait tous les moches dans le même sac, le tout venant des laits avec la crème des ultra moches, dit-il. Être donc juste moyennement laid et pas maquillé, ouais, c'est la double peine.
En moi, ma beauté m'a beaucoup nui dans ma
oui,
carrière.
Mais d'ailleurs, les gens
quand
en parlent.
Quand on est trop beau, après il y a des jalousies. Pardon, je vous laisse continuer.
En parlant de beauté, on continue. Avec ou sans maquillage, je cite encore la revue L'Entretien. Ce matin, j'y suis pour rien, c'est vraiment bien. Cette fois, L'Entretien est avec Jonas Mekas, père du cinéma underground, engagé dans les résistances lituaniennes pendant la Seconde Guerre mondiale, échappé de l'armée soviétique. Il a passé plusieurs années dans les camps de réfugiés. Après la libération, il s'est exilé aux États-Unis. C'est un poète, un compagnon de route d'Andy Warhol, un réalisateur culte. Son dernier film s'appelle Bonus de la vie d'un homme heureux. Bref, il a l'air content et il dit à propos de la beauté: je ne la cherche pas, elle est là, je la vois et je l'enregistre, mais elle est là, la beauté est là, c'est vous qui la trouvez. Quelqu'un d'autre peut regarder la même chose et n'y voir aucune poésie. Donc de nature, je suis quelqu'un qui voit, qui a besoin, qui est attiré par cet aspect de la réalité dans lequel il y a de l'intensité et de la subtilité, un certain type de poésie. Je suis peut-être intéressé plus par les couleurs, par certaines nuances que par les grandes épopées. Ce sont des réalités plus intenses. On peut peut-être parler de réalité intense plutôt que de poésie. Et en parlant de réalité intense et de poésie, Théodore Adorno écrivait « Écrire un poème après Auschwitz et Barbare ». Et c'est la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, ukrainienne et biélorusse, qui le cite dans son discours au moment où elle a reçu le prix, un discours magnifique qui est repris par le supplément Comprendre le monde de la revue 21. Elle reprend donc à son compte cette phrase d'Adorno pour parler de la guerre. Elle parle de la guerre russe, de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Tchétchénie. Et pour parler de ces guerres, elle n'a utilisé pendant sa carrière littéraire que des témoignages qui traduisent la profonde laideur de la guerre. Ici, on n'a pas le droit d'inventer, elle dit, il faut montrer la vérité telle qu'elle est. Elle parle notamment d'un séjour à Kaboul, d'un tas de nounours qu'elle a emporté pour les donner, d'un enfant qui le saisit avec les dents. Je demande pourquoi avec les dents, dit-il. La femme d'à côté baisse la couverture et monte l'enfant sans bras ni jambes. Il n'y avait plus rien à dire. Pourtant, elle continue à écrire. La beauté comme l'ultra-better, la littérature fait feu de tout bois.
Merci Marie Missé.
Oui.
Non, c'était juste merci.
D'accord.
Pour votre revue de presse.
J'en ai marre.
Qu'est-ce qu'il y a,
Mais moi aussi, je veux partir. Je veux boire des mojitos dans un bar, dans le bar Mandela. Je veux sauter partout dans la rue, danser avec les gens.
Non. Oh, madame,
ça, c'est l'endocrine qui travaille. Excusez-moi, c'est rien.
Le journal de Thierry Paré. Vous avez vu la méchanceté de
oui,
ma voix.
Oui, j'ai vu.
François,
il est 8h03.
Bonjour. François Fillon devait se rendre au salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris ce matin. Il devait se rendre sur place avant l'ouverture au public afin d'éviter les risques de manifestations. Tout était prévu. Finalement, sa visite, elle a été annulée au tout dernier moment, prenant de court apparemment, y compris son staff de campagne qui était sur place et qui n'avait pas été tenu au courant de cette annulation. Manuel Valls exprime son inquiétude face à la campagne de Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre a réuni ses proches hier soir, un mois après sa défaite à la primaire. Donc il met en garde contre le FN et s'interroge sur la stratégie du candidat socialiste. Depuis le ralliement de l'écologiste Yannick Jadot à Benoît Hamon, plusieurs personnalités socialistes ne se cachent plus pour critiquer leur candidat. Barack et Michelle Obama viennent de signer un accord avec la maison d'édition Penguin Random House, prévoyant un livre chacun. Selon le Financial Times, l'éditeur aurait accepté de mettre sur la table plus de 60 millions de dollars pour s'assurer les droits de ces deux ouvrages. Pendant que le couple Obama est appelé à écrire, Donald Trump était lui appelé à parler cette nuit devant le Congrès américain sur un registre plus présidentiel qu'à l'habitude. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a appelé de ses voeux le renouveau de l'esprit américain, sans donner beaucoup de détails, ceci dit, sur le financement de ses projets phares. Il a notamment réaffirmé sa volonté de supprimer l'Obama. Il a dressé un bilan catastrophique de l'administration précédente, rappelant que 43 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. Il a promis de ramener des millions d'emplois aux États-Unis en appliquant de façon stricte les lois sur l'immigration. Il a promis aussi de détruire l'État islamique et puis il a aussi déclaré que le pays allait bientôt commencer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. On ne pouvait pas les manquer. Des dizaines d'élus du Parti démocrate ont revêtu une tenue blanche à l'occasion de ce discours de Donald Trump au Congrès pour soutenir les droits des femmes. Pour la troisième fois, la Commission européenne n'est pas parvenue hier, faute de majorité, à soumettre au vote un nouveau projet de réglementation des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques dangereux omniprésents dans l'environnement. Bien qu'il n'y ait pas de données officielles, les violences à l'encontre des enfants seraient largement sous-estimées. Le gouvernement va dévoiler aujourd'hui le contenu d'un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Un tir accidentel a fait 2 blessés hier, lors du discours de François Hollande qui inaugurait la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Un militaire qui se trouvait sur un toit pour surveiller l'événement a trébuché en voulant changer de position. Les personnes blessées ont été touchées aux jambes. L'enquête sur la famille disparue à Orvault progresse. La police qui a diffusé une fiche de recherche au niveau national soupçonne désormais Sébastien Troadec, c'est le fils de la famille, d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être même lui-même. La célèbre société de vente aux enchères parisienne Drouot va mettre aux enchères mardi prochain le squelette d'un dinosaure vieux de 66 millions d'années, squelette découvert au Maroc. Et c'est bien là le problème parce que, selon les autorités marocaines, ce squelette a été illégalement exporté en France. Angers, Fréjus-Saint-Raphaël et Bordeaux, ce sont les 3 premiers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. Suite des rencontres ce soir, Niort va recevoir le PSG, Marseille va recevoir Monaco, l'US Quevilly va recevoir Guingamp et Avranches va recevoir Strasbourg.
Merci Thierry Paret. Stop, on s'assoit,
oui.
On réfléchit. On réfléchit, faut pas, c'est là où il ne faut pas se bourrer.
On ne gourre pas.
Je touche d'émotion. Il n'y a plus que 25 minutes d'émotion, c'est le moment où il ne faut vraiment pas se gourer. Thierry, Thomas, Atmen, tout le monde, Arnaud, qu'est-ce qui serait vraiment efficace, intéressant là, pour les gens qui se réveillent?
Une guitare.
Une guitare, oui.
Une guitare, une météo ou...
Une guitare, une météo, je crois que c'est... Ça plaît beaucoup. Allez-y, Tito.
Alors aujourd'hui, il pleut partout. Sortez vos pébrocs et vos parapluies. À Brest, la température se rend de 6 à 12. À Corté, de 4 à 13. À Dreux, de 4 à 12. À Évreux, de 4 à 12. À Limoges, de 6 à 11. À Paris, de 6 à 13. À Pau, de 8 à 14. Saint-Étienne, de 3 à 8. Vienne, de 8 à 11. Oui.
Tito, oui. Vous faisiez quoi entre 7h30 et 8h30?
J'essayais de discuter avec mes copains.
Voilà, et... c'est ça. Vous êtes en train de boire un coup, de discuter. Donc ouais. Vous m'avez refait la même météo qu'à 7h30.
Mais oui, c'est ça.
Mais vous m'avez fait la même blague, les pébrocs, le même fond musical,
oui, parce que
exactement les mêmes chiffres, mot à mot la même.
Ce ne sont pas les mêmes auditeurs, c'est pour ça.
Alors, tu vas prendre ta guitare.
Oui, bien dit, vas-y.
Ta blouse, tes crayons. Tu vas passer à la comptabilité,
ouais. Hein,
et puis tu reviendras demain avec un mot d'excuse.
Oui, oui, mais écoute, voilà.
Bon alors, François Fillon viendra pas aujourd'hui.
Avec Jacques Souvent.
Oui, il viendra pas François Fillon, je pensais qu'il venait pour le concours général, mais donc il sera pas là. C'est ce que j'ai entendu, Thierry a dit ça tout à l'heure.
Il a dit avec... ça que François Fillon ne vient pas. Salon de l'agriculture.
Oui. Je suis toujours là, moi. Je suis avec Marine, qui est fromagère, qui fait du Beaufort.
Oui, c'est exact. Je fais du Beaufort à la coopérative de Bourg-Saint-Maurice.
Voilà. Et avec Marine, j'ai décidé de faire un petit jeu. Je lui ai dit que voilà, elle regardait exactement dans le salon tout ce qui quelqu'un qui l'intéressait, et on allait le rencontrer en direct.
Voilà, okay. Exactement.
Donc, vous voulez rencontrer qui?
Et ben là, je vois des producteurs, je pense, de Primolstein. Donc, je connais pas du coup toute la race. Donc, on va aller les voir.
Qu'est-ce qui vous dit que c'est des producteurs?
Oh, bah, ils ont bien la tête des producteurs et puis ils ont la petite veste sans manches. Donc, on va dire que c'est bien parti. Mais sans
conviction. Bonne tête de producteur. David Folstein, qui est cette belle vache laitière?
On y va, on avance. Ouais.
Bourg-Saint-Maurice, qui est cette gare, hein, pour ceux qui vont skier, c'est la gare des vacances de ski aussi. Et à côté de ça, Marine fait son lait.
Oui, Marine fait du lait. Bonjour, bonjour messieurs. Bonjour. Je viens avec vous parce que je vous présente Marine. Voilà, et elle voulait vous rencontrer.
Ah bon, nous on veut bien aussi.
Voilà. Donc, ah oui, tu
parles. Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux?
Voilà, en fait, c'était pour savoir si vous étiez producteur de vaches Primolstein.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, comme c'est je ne connais pas la race, j'aimerais bien que vous me la décriviez et puis que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe.
La race Primolstein, bah, c'est la reine du lait dans le monde, hein, je vais vous dire. Voilà, ouais. C'est la vache la plus nombreuse. Plus nombreuses dans le monde, et c'est la vache qui produit le plus de lait par vache. Ça a beaucoup de critères. C'est une vache qui ingère beaucoup et puis qui transforme beaucoup.
Vous êtes un petit peu frimeur quand même.
Non, je suis pas frimeur.
Non, c'est une vache qui est agréable à vivre.
J'ai fait la meilleure litière là au concours avec une vache qui a produit 114 000 litres de lait à l'âge de 12 ans et qui a fait 3e de section. Voilà.
On rigole pas.
Qu'il en fasse autant, Jacques, souvent.
Ouais. Alors Marine, ça
14 000 litres de lait, j'aimerais te voir, toi.
Bah bien sûr, ça répond à mes questions, et puis c'est quand même impressionnant, parce que nous, on a des vaches à 5 000 litres de production par an avec le cahier des charges de l'AOP Beaufort, donc c'est vrai.
C'est différent, quoi. Vous avez, moi, j'apprécie cette vache-là, parce que j'ai mon beau-frère, moi, qui est en Haute-Savoie, et je les vois, les abondances, les tarines, le reblochon, j'adore le reblochon, voilà, la tome de Savoie, c'est extra. Qualité, quoi. Et puis c'est vrai que dans le paysage où vous êtes, cette petite vache-là, elle est magnifique dans la montagne.
Non, mais c'est sûr. Et puis nous, après, on regarde aussi les Primolstein. On a passé notre journée devant l'ordinateur pour regarder le concours. Donc,
sympa, voilà. Alors vous avez dû voir notre vache, je pensais. Une vache.
Voilà. Oh, oui.
Bon, on vous laisse un peu vous rencontrer. Il faut que ça prenne un
temps. Ça se rencontre, là. On le sent.
On vous laisse entre vous. Moi, je me dis peut-être que celle qu'on lui prend 5000 litres par an, peut-être qu'on lui fout un peu la
bah, on n'a aucune considération.
Ouais. Qu'on lui lâche le
billet. Justement.
On n'a aucune considération.
Oui.
Bonjour, Aldo.
Arnaud Lavache. Oui, Arnaud Lavache.
Aldémarrante.
Hein?
Je suis Aldémarrante, je suis vache philosophe.
Et alors, vous n'aimez pas qu'on vous tire trop sur les billes? Vous trouvez quoi?
Imaginez qu'on vous le fasse.
Oui,
Ça fait évidemment, au début c'est agréable parce qu'on se sent utile, on sent qu'on va donner quelque chose à cette espèce qu'est l'espèce humaine, qui c'est vrai qu'on admire. Mais à un moment donné, c'est un peu trop, c'est trop. On n'est plus qu'une mesure, quoi. On n'est plus que 500 litres, 2500 litres, 7000 litres. On n'a plus de personnalité, personne nous parle avec notre prénom, on n'a pas d'existence réelle. Enfin, je dis ça.
Les vaches qu'on aime, on les mange quand même.
Bien sûr, mais on veut bien être mangé, c'est pas le problème. À la CGT vache, on est pour. Mais qu'on nous parle un peu.
Oui, puis qu'il y ait des loisirs.
Que des loisirs, bien sûr.
Il y a des stades centres de, foot, de vacances.
Des stades de football. Des centres de vacances, oui. À la montagne.
Il est beau ton cri, la vache, il est beau ton appel.
Merci.
Il souffre. Il faut
juste être utilitaire, être aussi. Là pour rien, le plaisir d'être là pour rien,
bien
de ne pas être utile. C'est aussi la beauté d'être en vie sur Terre. On va tout de suite se retrouver avec Grégoire Bizot.
Me. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Ça me rappelle
rien.
De 7h à 9h, plus près de toi.
Alors, bonjour Grégoire Bizot.
Bonjour.
Grégoire Bizot, vous avez envie de me parler de Macron ce matin, ça m'intéresse.
Parce qu'effectivement, en deux mois, les gens parlaient d'une sorte d'apparition d'un personnage un peu... On se moquait de lui en disant il est christique, mais d'une façon ironique. Mmh. Les gens disaient, on revient, il fait des grands meetings où il galvanise un peu les foules, mais personne n'y croyait. Vous me disiez, c'était comme une bulle de savon qui va exploser. Maintenant, ralliement après ralliement, c'est le favori.
Et voilà. Et là, il y a quand même un cas d'école politique un peu inédit. Et je me suis dit, comment on passe de statut de bulle à statut de recours ou de favori? Et excusez-moi, mon analyse politique va être un petit peu faible, mais je crois que le premier élément, c'est qu'il, cet homme, a eu énormément de chance. C'est d'abord ce qui fait un bonhomme politique et ce qui fait une grande campagne. Il faut toujours un peu de chance, c'est ce qu'on dit. Mais alors là,
c'est ce qu'on disait de Hollande.
C'est ce qu'on disait de Hollande avant ce qu'on sait. Mais alors là, quand même, si on rembobine le film, je voudrais quand même que tous les auditeurs se souviennent. Nous sommes en octobre. En octobre, rappelez-vous, François Hollande est candidat, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et Alain Juppé est ultra favori de la primaire. Donc l'espace politique d'Emmanuel Macron à l'époque est tout petit, c'est un mini-golf, on va dire, où il peut jouer, parce qu'au centre droit, il y a Alain Juppé, au centre gauche, François Hollande. Donc pas d'espace, rien. Bon, on sait ce qui s'est passé, François Hollande renonce, Juppé est battu, et puis là, double rebondissement aussi incroyable, en tout cas, que personne n'avait anticipé. Le frondeur Benoît Hamon gagne la primaire à gauche et le Penelope Gay plombe définitivement la campagne de François Fillon. Et là, ce n'est pas un mini-golf dans lequel pourrait jouer Emmanuel Macron, mais là, c'est carrément un green magnifique, 5 étoiles, un truc qui s'étend sur plusieurs
hectares. Parce que là, on a une vraie gauche et une vraie droite.
Enfin, alors là, on a une vraie gauche, une vraie gauche-gauche, une vraie droite plombée par les affaires, et donc l'espace au centre, là, c'est... Et Emmanuel Macron devient... un espèce de favori. Et alors, il y a un élément qui va rentrer dans le débat public dans quelques jours, dans quelques semaines, et qui va être, à mon avis, un effet relativement puissant, c'est que, notamment parmi les gens de gauche, mais peut-être aussi parmi les centristes, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet vote utile, qui n'est pas encore complètement intégré. C'est-à-dire que les gens vont commencer à se positionner en se disant, bon, hein, il y a quand même l'idée qu'il faut éviter un Le Pen-Fillon au deuxième tour. Comment on évite un Le Pen-Fillon au deuxième tour? Eh bien, on met au premier tour son bulletin pour favoriser celui qui est le mieux placé. Aujourd'hui, les gens n'ont pas encore, les électeurs ne sont pas encore mis dans cet état d'esprit, mais plusieurs élus, on le voit, commencent, y compris du Parti Socialiste et au sein du gouvernement, beaucoup ne sont pas très à l'aise et retiennent leur vote et leur position. D'ici début mars, ils disent mi-mars, et là ils diront, écoutez, maintenant... le risque Le Pen est trop fort, on ne peut pas se permettre de la mettre au deuxième tour face à Fillon, donc on ira à Macron. Donc cet effet risque d'amplifier le mouvement Macron.
Mais ça risque, Grégoire Bizot, enfin, ce que vous dites là, c'est une forme de pari aussi. C'est-à-dire dans une période où il y a, je crois, 65% des Français qui ne savent pas encore vraiment pour qui voter, il y a une volatilité qui reste encore
alors,
très forte.
Hein. Alors, tout à fait, Thomas, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il y a une volatilité très forte. Le paysage n'a jamais été aussi instable. Dans les sondages, on voit qu'il y a des fluctuations extrêmement fortes. Macron a pris 5 points en l'espace d'une semaine. Il y a 3 semaines, on avait... Benoît Hamon, qui était autour de 18, là, il est plus qu'à 14. Rien n'est très stable, etc. Et le paradoxe un peu démocratique qui pourrait nous faire un peu réfléchir, c'est qu'on parle ce matin d'Emmanuel Macron en tant que favori, alors que le favori, aujourd'hui, à l'élection présidentielle, n'a toujours pas présenté son programme. C'est quand même un tout petit peu particulier. Mais évidemment, il va le faire demain. Bon, c'était une stratégie un peu habile parce qu'il savait que présenter son programme, c'était soit décevoir les gens de sensibilité plus de droite, soit décevoir les gens de sensibilité un peu de gauche. Donc, il a essayé d'avancer masqué. Bon, la combine a été un peu vue. Il a même essayé de théoriser l'idée que finalement, dans une campagne électorale, le programme, c'est important, mais on peut faire sans. On lui a dit, bon, écoute, là, Emmanuel, non, je pense qu'il est temps quand même de présenter tes mesures. Donc, demain, il l'a fait. Ça, c'est là une première étape extrêmement importante avant de cette fameuse cristallisation dont parlent tous les politologues, c'est-à-dire ce moment où, tout d'un coup, les électeurs, les citoyens français se fixent.
Hein, donc, ce sera quand, vous dites, mi-mars, fin mars?
Oui, mi-mars, fin mars, il y aura là, je pense, une photo qui va commencer à devenir vraiment sérieuse et un peu importante. Et il y a quand même dans cette course au pouvoir une question qui va monter aussi et qui pour l'instant n'apparaît pas dans le débat public, c'est celle d'OK, Emmanuel Macron peut faire un président de la République, mais avec quelle majorité va-t-il gouverner? Alors là, parce que...
C'est la fameuse crise de régime qui est arrivée au moment des législatives.
Parce que cette élection présidentielle était folle, mais alors l'élection législative qui arrive va être dingue.
Elle va être bien.
Elle va être dingue parce qu'il va y avoir, quand les choses soient claires, il va y avoir au premier tour de l'élection législative, au moins 5 candidats. Le Front de Gauche, le PS, En Marche, LR et le Front National. Ça veut dire que, quelque part, on sait que, d'ores et déjà que cette Assemblée nationale sera ingouvernable, qu'il n'y aura pas une majorité absolue pour le candidat sortant. Et donc, ça veut dire qu'on bascule. Vous savez, dans cette campagne, on a beaucoup parlé de la 6e République. Et le paradoxe, c'est qu'on risque de revenir à la 4e République, c'est-à-dire l'ère des coalitions, des alliances sur des textes, etc. Donc, on bascule dans un nouveau monde politique. C'est bon, à la fois, si.
Alors, les législatives sont un mois après. Donc, ils ont le temps, surtout qu'il y a un ralliement des centristes maintenant, de faire une sorte de grand parti presque centriste. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un des paradoxes de cette candidature anti-système, tout à coup, d'être rejointe par beaucoup de vieux briscards de la politique?
C'est pour ça qu'il était. Il y a un chemin de crête. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, ces briscards qui reviennent, ces poids lourds comme Bayrou, etc., on parle de Borloo, ça crédibilise un peu. Mais en même temps, comme tu le dis si justement, ça le ringardise un peu. Donc il en voulait sans en trop en vouloir. C'est-à-dire qu'il aimerait bien. Et jusqu'à présent, il a toujours dit, alors, qui vient, qui veut me soutenir, me soutient. Mais moi, je ne signe aucun compromis, aucun pacte faustien ou politicien, en tout cas. Pour l'instant, il a tenu cette...
Il lui faudrait un petit Nicolas Hulot, un mec comme ça. C'est ça qui lui ferait plaisir, quoi. Un mec qui ne joue pas de la politique, quoi. Ça lui ferait plaisir. Ouais, organisez-moi tout ça. Mais merci Grégoire, bisous.
Merci.
Vous êtes droit dans vos bottes.
7h, 9h, plus près de toi.
Je suis toujours en direct de ce quartier à côté de Johannesburg, qu'on appelle ici Joburg. Crown Mine, une ancienne mine, un township à une demi-heure du centre. Un quartier qui était avant une mine d'or, qui ne l'est plus, puis les gens sont restés. De temps en temps, il y a encore des gens qui creusent, des maisons s'effondrent, c'est un peu le drame ici. Et c'est pourtant là qu'on tourne un film français qui s'appelle Black Snake, de Thomas Gentle et Carole Rocher. Et je joue dedans, je joue une sorte de salaud de français qui vient essayer un peu de corrompre les présidents africains. Voilà, on est en train de tourner là, c'est pour ça que pendant quelques jours, je serai en direct de ce tournage, pendant que tout le monde, tous les amis seront là, avec vous aussi, en studio. Ammoniacal, tu es resté en studio. Je suis désolé de physiquement avec toi.
Non, mais à chaque fois que je viens, à chaque fois, tu n'es pas là.
Mais tu es quand même heureux parce qu'il y a Atmen, il y a plein d'amis, il y a Thomas, il y a Marie Missé, il y a Armel, il y a Eugénie, il y a plein de gens gentils.
Mais il me tape. Il s'essuie avec mon chiffon.
Alors rappelons un petit peu ton apparence, peut-être pour.
Je suis moitié pingouin. Moitié homme, moitié chiffon.
Ça te dirait de nous faire ton petit générique ?
Oui.
Vas-y.
Mignon, mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal.
Ammoniacal, tu as fait part d'une détresse, mais tu as peut-être un autre message à envoyer aux auditeurs qui sont là quelques minutes avant leur fatidique de 9h qui marque pour beaucoup le départ du travail.
Oui, je voulais dire que je me suis fait attaquer par des moineaux.
Oui.
Parce que je m'étais endormi sous une table dans une terrasse d'un McDonald's et j'avais des miettes sur mon chiffon et j'avais pas vu. Tous les moineaux ont essayé de me prendre les miettes, mais comme à Paris, ils ont pas une bonne vue à cause de la pollution, ils m'ont fait mal.
Mais le moineau a un tout petit bec, ammoniacal. C'est un bec qui caresse, qui picote. Ce n'est pas le gros bec du corbeau.
C'est quand même l'attention qui compte.
Mais ça n'est pas méchant, c'est la faim qui les guidait.
Mais quand même, j'ai pas une table.
Oui, ammoniacal, et ce n'est pas à toi qu'ils en voulaient, ils voulaient du pain.
Oui, mais quand même, ils auraient pu voir ce que j'étais en intégrité de personne.
Mais tu aurais pu peut-être te secouer pour que les petits morceaux de pain soient sur le sol et qu'ils s'attaquent au sol directement.
Je peux pas parce que j'ai un lumbago. Je peux pas en ce moment parce que j'ai trop porté de choses parce que je vous ai pas dit j'ai accouché ce qui fait que je fais des cours pour me remuscler.
Mais tu dis que tu étais sous une table au McDonald's. Tu ne peux pas aller au McDo tout de suite après l'accouchement. Il faut réhabituer ton estomac.
Pourquoi ? Oui. J'avais... C'est juste l'enseigne qui m'a attaqué. Je passais juste comme ça. Je voulais aller au restaurant chinois.
Et puis... Il est gentil, Ronnie McDonald ?
Ça dépend des jours. Il y a des fois, il est gentil. Il y a des fois, il me tape... Des fois, il arrive, il fait une blague, il me renverse des stylos ou des crayons de couleur. Des fois, il me dit
Nous terminerons là-dessus. Merci à Monia Kahl sur ses fortes paroles. Nous vous embrassons.
La semaine prochaine, j'aurai un truc plus intéressant.
Oh, c'était déjà formidable. Voilà. À demain pour la suite de cette émission franco-sud-africaine. Je vous embrasse très très fort.
Merci.
Voici maintenant le journal et puis 30 glorieuses. Au revoir mon tout petit ammoniaque. Mina, mina, minou, minou, mon petit chaton. Oui, gentil comme ça. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.